7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique avec les conseils du coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Président du cabinet de conseil Afrique Search, vous avez vu naître et grandir des centaines d'entreprises sur le continent. Mais la route est quand même semée d'obstacles, peut-être surtout en ce moment, non ?
Il y en a partout.
Alors, si vous êtes jeune diplômé et que vous avez des difficultés à faire décoller votre projet, c'est le moment de nous appeler, de poser vos questions au coach. Le numéro de WhatsApp, toujours le même, 33 7 64 45 51 41. En deuxième partie d'émission, Didier Akwété, vous restez avec nous. Et comme chaque mois, nous allons ouvrir sur une discussion avec des patrons de PME. Et aujourd'hui, justement, une question cruciale pour ceux qui ont une boîte qui commence à marcher. Faut-il ouvrir son capital ? Quel est le bon moment et à qui ouvrir son capital ? D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment le choix des investisseurs ? C'est une question angoissante, en tout cas pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. On en discutera avec un patron de PME, une dirigeante d'un fonds d'investissement. Moumouni Konaté, fondateur dirigeant de la savonnerie parfumerie du Houé, société familiale qui a été créée il y a plus de 20 ans et qui est spécialisée dans la production de produits d'hygiène à base de karité, qui est basée à Bobo-Dioulasso, au Burkina, et qui a ouvert son capital à plusieurs reprises. Aïssatou Leblon, quant à elle, est cofondatrice et dirigeante de M&A Capital Group, donc une société d'investissement. Mais tout de suite, on démarre avec le coaching d'un jeune patron de l'Afrique qui gagne, comme on aime les appeler, dans J-Pag. L'émission Les fameux JPAG.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Et tout de suite, nous sommes en ligne avec El Miradj. Bonjour.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
El Miradj, vous êtes à Porto Novo, au Bénin. Vous avez 29 ans. Vous avez créé il y a 4 ans une entreprise de conception, fabrication et vente de couveuses électriques pour les volailles. Votre entreprise s'appelle comment exactement ?
Adiaba.
C'est ça. Et ça signifie en langue yoruba ?
La poule en couvaison.
D'accord. Bah, c'est bien incarné, donc, puisque vous fabriquez des... Découveuse, votre parcours, vous avez une licence professionnelle en agronomie, option production animale. Vous avez travaillé 3 mois au Nigeria pour apprendre l'anglais, ça c'est bien. Et puis 2 ans aussi dans le labo zootechnique de l'université d'Abomey-Calavi à temps partiel. Alors pourquoi vous êtes lancé dans la fabrication de couveuses de volailles, El Miradj ?
Quand j'étais en première année d'université, c'était lors d'un stage académique à Boïko. J'ai pu constater que 99% des éleveurs au Bénin font de l'élevage traditionnel. Donc du coup, ils avaient un accès très difficile au marché parce qu'ils ne pouvaient pas mettre des produits de grande quantité sur le marché.
Alors quand vous dites élevage traditionnel, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le métier, ça veut dire qu'ils laissaient les poules couver naturellement.
Ils laissaient les poules couver naturellement.
Donc ça produit beaucoup moins d'eau.
Et avec une poule, vous ne pouvez pas dépasser 10 ou 15 poulets vivants dans une année. Donc, pour moi, c'était trop bas, en fait. Donc, du coup, je me suis mis à faire des recherches. Puisque je venais de commencer la formation en agronomie, je n'avais pas encore d'expérience. Donc, du coup, je me suis mis à faire des recherches sur Internet, à lire des tutos sur YouTube, à lire des écrits sur Google. Je me suis rendu compte qu'il y avait une machine qui permettait, en fait, de synchroniser la naissance. C'est-à-dire que rassembler des œufs. Si vous avez par exemple 20 poules, au lieu de laisser les poules couver eux-mêmes, vous pouvez rassembler ces œufs et puis mettre dans cette machine. Et le constat qui a été aussi fait, c'est que quand vous ramassez des œufs chez les poules, elles continuent de pondre en fait. Au lieu de pondre 10 œufs et de couver, quand vous ramassez les œufs, elles pondent sur toute l'année.
C'est ça, ça augmente donc la rentabilité même de la poule pour la ponte, indépendamment du fait que parallèlement vous pouvez récupérer plus de poulets.
Exactement. Donc, c'est ce qui m'a permis d'entreprendre dans ce domaine, oui.
Donc, vos couveuses automatiques de volailles pour des éleveurs, elles permettent quoi en termes de quantité ? Ils passent de combien à combien ?
Oui, les couveuses que nous fabriquons actuellement, la plus petite capacité, elle permet d'incuber jusqu'à 264 œufs de poule. La plus grande quantité, nous avons une capacité de 5264 œufs.
Simultanément, hein ?
Simultanément, oui. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 21 jours, si vous avez une capacité de rassembler 5264 œufs, vous pouvez le mettre dans nos incubateurs et avoir le résultat. Donc, ce qui vous permet de faire la conduite ensemble et de mettre une grande quantité de produits sur le marché, ce qui permet d'augmenter vos revenus.
C'est un vrai cours de maths, hein, là, qu'on est en train de faire.
C'est l'effet d'échelle.
Oui, c'est ça. Vos couveuses automatiques d'œufs de volaille, j'imagine qu'on peut trouver des couveuses chinoises pour des prix très bas, non, moins chers que les vôtres?
Pour le moment, non. Parce que quand on fait l'analyse, ce sont des trucs que nous avons étudiés avant de mettre nos couveuses sur le marché. Parce qu'on s'est rendu compte que la Chine fait vraiment des incubateurs, font des couveuses. Bon, on les appelle aussi des incubateurs. Donc, la Chine fait des couveuses qui sont beaucoup plus moins chères que nous, nos couveuses. Mais à cause du coût du transport et de la douane, quand les couveuses chinoises arrivent au Bénin, elles coûtent beaucoup plus cher que nos couveuses. Et ce que le client peut tirer en achetant des couveuses chez nous, c'est qu'il bénéficie du service après-vente, il bénéficie de l'accompagnement, alors que quand il paye une couveuse chez un Chinois, il ne bénéficie de rien de tout ça. Donc, c'est la différence.
Mmh. Alors, le service après-vente, l'accompagnement, quel est-il justement? Parce que ces couveuses que vous les vendez en gros entre 200 000 et 900 000 CFA, hein, c'est ça, selon les modèles, hein.
Oui, oui.
Donc entre 300 euros et 1300 euros. Et donc après, il y a votre fameuse valeur ajoutée.
Oui, le service après-vente et l'accompagnement. Il faut se dire qu'au Bénin, beaucoup ne savent pas encore ce qu'on appelle une couveuse. C'est-à-dire quand vous prenez 10 personnes, à peine une personne sait ce qu'on appelle une couveuse. Donc du coup, ils ont envie d'investir, ils ont envie d'acheter la couveuse, mais ils ne savent pas l'utiliser. Donc, quand nous vendons nos incubateurs, nous faisons une formation de 2 à 3 jours aux nouveaux acquéreurs. C'est-à-dire, on les forme sur comment il faut régler la température, l'humidité, comment est-ce qu'il faut recueillir les œufs chez les poules, comment est-ce qu'il faut incuber les œufs et comment est-ce qu'il faut entretenir les poussins à la fin. Donc, du coup, il y a des gens, des clients, à cause de cette valeur ajoutée, ils préfèrent acheter des couveuses chez nous que d'aller commander des couveuses en Chine.
Et ce service après-vente, vous le facturez également?
Non, ce n'est pas facturé, c'est inclus.
Alors, quelles sont les questions que vous voulez poser au coach Didier Akwété? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, vous n'êtes pas en déficit,
oui.
mais vous stagnez, quoi.
Exactement. Bon, d'ici, disons, en 2020, par exemple, nous avons fait un très bon chiffre d'affaires, mais on pense qu'on peut aller au-delà. Parce que nous avons actuellement, nous venons dans tout le Bénin, mais on n'arrive pas à aller dans la sous-région. Par exemple, on n'arrive pas à rentrer sur le marché burkinabé, le marché malien, nigérian, ivoirien, gabonais, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que avec ce que nous avons comme valeur ajoutée sur nos produits, on doit forcément s'installer dans ces pays pour pouvoir vendre. Parce que si on doit exporter nos produits, on ne pourra pas offrir en fait cette valeur ajoutée que nous avons.
Et oui, la formation des agriculteurs, le service après-vente, l'accompagnement. Didier Akwété.
Mon cher El Miradj, quelle est la part de marché que vous détenez aujourd'hui au Bénin?
Bon, il y a d'autres fabricants de couveuses actuellement au Bénin, mais qui ne font pas des couveuses de même qualité que nos couveuses. Donc, je ne peux pas vraiment quantifier la part du marché, mais je dis que nous détenons une grosse part du marché quand même.
D'accord.
Je ne peux pas quantifier, je ne peux pas le quantifier, parce qu'il faut faire une étude pour pouvoir vraiment quantifier.
Très bien. En fait, je posais la question à dessein, parce que avant d'aller sur des stratégies export, regardez déjà votre marché domestique sur lequel aujourd'hui vous semblez prospérer. Si vous pouvez me dire, le marché des couveuses au Bénin s'étend de millions, de milliards de CFA, que vous, votre chiffre d'affaires et de temps, vous saurez si vous avez 2%, 10%, 15%, 20% ou 50% de part de marché. Donc, le premier réflexe, c'est de raisonner en termes de marché.
D'accord.
Et il n'y a pas, plus gros risque que d'aller sur des marchés nouveaux, alors que vous êtes sur un marché domestique qui prospère, qui grandit, vous gagnez de l'argent. Et ce que vous allez faire à l'export peut vous faire perdre votre marché domestique et tout ce que vous gagnez aujourd'hui. Mais cela étant dit, vous pouvez tout à fait aller vers une stratégie d'exportation, une stratégie d'internationalisation. Et c'est ça votre question.
Une fois qu'on est trop à l'étroit dans son marché domestique, sous-entendu?
Normalement. Ou alors on se dit, sur mon marché domestique, les marges sont trop faibles parce qu'il y a trop d'acteurs. Donc il faut que j'aille sur un marché différent où je peux mieux gagner ma vie. Donc, en termes de raisonnement stratégique, c'est déjà regarder aujourd'hui votre marché domestique. Maintenant, par rapport aux services que vous apportez, donc vous vendez un produit avec de ce qu'on appelle de services à valeur ajoutée, et vous vous posez les bonnes questions. Le meilleur moyen, c'est où ce que les entreprises font, d'ouvrir une filiale, donc avec vos équipes, avec le même service, la même prestation, où les clients se disent, tiens, l'entreprise a dit à bas, soit vous l'appelez pareil ou différemment, c'est le même service, quel que soit l'endroit où ils vendent leur couveuse. Ou alors, vous développez un système de franchise en sachant que vous fournissez la matière première, donc les équipements, donc ça c'est votre force, plus les services. Et du coup, vous pouvez même, si vous faites du volume, demander qu'on vous brande, c'est-à-dire qu'on mette votre marque sur ces couveuses que vous allez appeler Adi Yaba, et du coup, vous devenez distributeur, revendeur, pas fabricant à ce stade, de ces machines avec tout le service qui va avec auprès de vos franchisés ou de vos filiales, en sachant que la franchise a ses avantages et ses inconvénients, la filiale a ses avantages et ses inconvénients. Donc, schématiquement, c'est pas très compliqué d'aller à l'export. Sauf que vous prenez un gros risque parce que vous allez devoir assurer le service après-vente, assurer la même qualité de service,
donc, trouver des partenaires,
superviser
etc.
des équipes, comprendre le marché, etc., etc., etc. Donc, c'est une bonne idée dans l'absolu, mais attention, maîtrisez d'abord votre marché domestique, prenez une place prépondérante puisque les clients semblent aimer ce que vous offrez avant d'aller sur l'international.
Elmiraj, vous avez une autre question, hein, je crois, pour Didier.
Il y a certains de nos clients qui souhaitent en fait être indépendants de l'installation du réseau électrique normal. C'est-à-dire, ils aimeraient que leur couveuse puisse être branchée sur des panneaux solaires. Mais le problème, c'est que l'installation aux panneaux solaires avec nos couveuses coûte extrêmement cher. Et tous nos clients, disons, ne peuvent pas débourser de l'argent pour pouvoir le faire. Donc la question c'est que est-ce qu'il faut recourir au crédit pour pouvoir leur faire cette installation? Et s'il faut recourir au crédit, où est-ce qu'il faut trouver de l'argent pour pouvoir le faire? Donc c'est la question.
Ou alors vous mariez avec une entreprise qui propose des panneaux solaires en leasing. Enfin, c'est déjà très développé maintenant ce marché pour des gens qui n'ont pas le cash et qui veulent s'équiper de panneaux solaires, Didier à côté.
Non, tout à fait. Alors surtout pour l'instant, comme votre entreprise est en train de grandir, évitez de supporter ce risque, parce que si jamais les clients font défaut, vous risquez de perdre une bonne partie de votre trésorerie. En revanche, tel que vous le faites, vous pouvez proposer un accompagnement, comme le disait par exemple Emmanuel, avec des sociétés qui font du leasing ou avec des sociétés qui fabriquent des panneaux solaires, qui deviennent vos partenaires.
Et pour ces sociétés, ce sont aussi de nouveaux clients,
de nouveaux
agriculteurs, éleveurs, qui ont besoin de s'équiper pour les couveuses.
Et vous prenez une commission sur chaque marché que vous apportez à ces nouveaux partenaires. Évitez de trop vous diversifier aujourd'hui, de trop vous disperser, parce que vous êtes sur un marché qui semble vous réussir, qui semble se développer. Vous avez du cash. Le cash, utilisez-le pour consolider l'existant, pour peut-être arriver à terme à produire vos propres couveuses. Pourquoi pas? Bon, c'est peut-être pas non plus une technologie très compliquée. Vous savez, si vous voyez que le marché se développe et que vous pouvez conquérir le marché national et dans la sous-région, vous pouvez devenir le leader de la fabrication des couveuses dans la région. Et peut-être votre trésorerie peut vous servir à monter peut-être une petite unité. Comme ça, vous remontez un peu plus en amont de la chaîne. Mais en sachant que, effectivement, ça aussi a un risque. Si vous produisez vos couveuses trop chères et que vous avez des concurrents qui rentrent sur le marché avec des produits à des coûts beaucoup plus faibles que les vôtres, vous risquez d'être un peu pénalisé. L'investissement vous coûtera cher. Mais en gros, ce que demandent vos clients, c'est bien. Trouvez des partenaires qui sont dans ce domaine du solaire, avec qui vous faites une alliance, qui vous permet de générer des revenus complémentaires et d'apporter du service à vos clients, mais restez sur votre corps de métier pour l'instant.
Oui, parce que c'est vrai que l'accès à l'électricité en zone rurale, hein, pour des éleveurs de volailles, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de couveuse. Elmiraj, à l'heure actuelle, vous les fabriquez, vos couveuses, à partir de pièces importées? Comment vous faites?
Effectivement, nous disons que nous importons 20% du matériel que nous utilisons pour fabriquer nos couveuses depuis la Chine et les 80% restants sont achetés au Bénin.
D'accord. Ah oui.
Très bien. Et est-ce que vous avez des couveuses solaires déjà ou pas sur le marché?
Oui, nous avons déjà des couveuses solaires sur le marché. Il y a des clients qui le prennent, c'est-à-dire ceux qui ont souhaité s'installer dans le milieu rural où il n'y a pas de l'électricité et qui ont les moyens de le faire. Nous avons déjà des couveuses solaires sur le marché.
Didier Akwété, en quelques mots, vous y croyez à ce projet ou pas?
Non, c'est un bon projet. Vous savez, on en a parlé quelques fois, le marché agricole est un marché en plein développement. Il y a des gros champions dans le domaine et ça va continuer de se développer.
Le poulet, c'est la viande la plus consommée dans le monde entier.
Ah bah, en Afrique, encore plus, c'est comme si le poulet est né en Afrique parce que moi, j'en mange tous les jours quand je peux aussi. Et souvent, je me pose la question à mes amis, est-ce que le poulet n'est pas né en Afrique? Non, c'est un marché qui va se développer et il capte une partie du marché qui a l'air extrêmement porteuse, cette partie du marché. Donc, effectivement, qu'il consolide, qu'il développe, qu'il renforce sa position et puis après, qu'il aille sur les marchés externes.
Et bravo à vous, El Miradj, parce que pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, vous n'avez que 29 ans.
Bah c'est bien, c'est ça les JPAG, non?
Oui, super. Qui gagne. Et puis vous êtes très synthétique, vous êtes très clair, vous savez où vous allez. Et j'espère que les conseils du coach vous ont été utiles, El Miradj.
Très utile. Merci.
Non, mais en plus, El Miradj, ce qu'il fait, c'est que si vous trouvez d'autres jeunes dans d'autres pays qui sont prêts à se lancer dans l'aventure, bah, ils deviennent vos clients dans ces pays, vous les formez, bon, et du coup, vous avez une présence rapidement dans toute la sous-région sans que vous ne supportiez le risque.
Et vous le contactez, El Miradj, hein, les voisins et les voisines, si vous êtes intéressés par son projet. Son entreprise s'appelle Adiyeba, qui signifie en langue Yoruba. Est-ce que j'ai bien prononcé d'ailleurs?
Très bien prononcé.
Adiyaba. Adiyé, c'est la poule. Abba, c'est la couvaison. Hein, c'est ça. Très, très bonne chance. Vous nous tenez au courant, surtout, El Miradj.
Emmanuel Bastide a grandi au Nigeria, c'est ce que vous ne saviez pas.
Merci à vous. Et quant à vous, si vous nous écoutez, que vous souhaitez vous aussi dialoguer avec le coach Didier Akwété dans la prochaine émission, pour parler de votre toute jeune entreprise ou d'un projet d'entreprise, avec un business plan, hein, vous nous contactez dès maintenant sur le WhatsApp au 33 7 64 45 51. 41. Didier Akwété, le coach, vous restez avec nous?
Évidemment.
Dans quelques instants, une question. Faut-il ouvrir son capital? Bon, El Miradj, il n'en est pas encore là. Mais quel est le bon moment? À qui ouvrir son capital? Ça sera juste après le choix musical de Romain Dubrac, le duo Onipa. Ils sont ghanéens et Onipa, ça veut dire humain en langue akan.
Fais-moi l'air, fais-moi l'air, fais-moi l'air, fais-moi l'air, fais-moi l'air, fais-moi l'air, fais-moi l'air.
souhaitez, on aborde la deuxième partie de l'émission 7 milliards de voisins sur RFI. Comment et quand faire rentrer des investisseurs dans son entreprise? On en discute avec vous, Moumouni Konaté. Vous êtes fondateur et dirigeante de la savonnerie parfumerie du Houé, une société familiale créée il y a plus de 20 ans, spécialisée dans la production, la commercialisation de produits d'hygiène à base de karité. Vous êtes basé à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Bonjour, monsieur Konaté.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous avez, votre entreprise plus exactement, a ouvert son capital à plusieurs reprises, donc votre exemple est intéressant. Et puis avec nous, un fonds d'investissement, un jeune fonds d'investissement avec Aïssatou Leblon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et dirigeante de M&A Capital Group, société d'investissement. Autrefois, vous avez travaillé dans la banque. D'ailleurs, vous aussi, Moumouni Konaté, vous êtes un ancien banquier, je crois. Hein,
exact, exact.
C'est
J'ai
ça.
J'ai fait 18 ans en banque.
D'accord, oui, comme quoi ça mène à tout. Hein. Hey, ça tout Leblon, vous avez d'ailleurs travaillé dans un fonds d'investissement IEP Partenaire qui a été un fonds qui est entré au capital de l'entreprise de Moumouni Konaté. Alors, les questions évidemment qui se posent pour les entrepreneurs, Didier Akwété, vous conseillez souvent à de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses qui n'arrivent pas à décoller, qui ont besoin d'investir de l'argent pour se développer, d'ouvrir leur capital, parce que c'est vrai qu'emprunter aux banques, c'est pas gagné. Mais les entrepreneurs, il y a quand même une réticence, hein, parce que leur entreprise, c'est un peu leur bébé.
L'ouverture de son capital part d'un besoin qui est simple, c'est que vous avez besoin de ressources, notamment de fonds propres, et ce que les banques reprochent souvent aux entrepreneurs, et je pense que M. Konaté confirmera, c'est un déficit de fonds propres. Et pour vous développer, vous avez besoin de ces ressources. Or, les banques vous prêtent sur des termes assez courts. Or, vous avez besoin de ressources longues pour financer l'investissement. Et donc, ce décalage ne vous permet pas, en réalité, de faire votre croissance. Et c'est pour ça que, finalement, on recommande aux entrepreneurs d'aller chercher des ressources autres que des ressources courtes bancaires avec des taux relativement élevés. Et quand on dit ouvrir son capital, ce n'est pas forcément un fonds d'investissement. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être d'autres sources de financement. Mais l'idée, c'est d'avoir des ressources plus longues à des taux moins élevés pour que vous puissiez développer votre business.
C'était votre cas, Moumouni Konaté?
C'était mon cas parce que ça fait 25 ans que l'entreprise existe, mais vraiment, on était arrivé à un niveau où il fallait accélérer la croissance et chercher des fonds vraiment adéquats. Parce que, comme il a dit, le besoin en financement se faisait sentir, parce que jusqu'à présent, on avait roulé avec le cash flow, mais bon, à un certain moment, il fallait vraiment... voir comment financer ce besoin.
Pourquoi faire, en fait,
le plus intéressant.
Pour financer des équipements de production de savon, notamment?
Pour financer des équipements et construire le siège, parce que ça fait 25 ans qu'on évolue à domicile, alors que l'entreprise a un taux de croissance assez élevé. Il fallait qu'on aille en zone industrielle, c'est la place où doit se trouver l'entreprise au lieu d'être dans un quartier populaire, quartier d'habitation.
Alors, là, je m'adresse à la professionnelle de fonds d'investissement, Aïssatou Leblon. Quel est le bon moment pour ouvrir son capital?
Je partais ce que disait Didier sur surtout la notion d'aller chercher des fonds sur le long terme. Et quand je fais le similaire avec ce que vient de dire l'entrepreneur, c'est que le cash flow n'est pas le plus optimal pour financer les investissements en CAPEX parce que très vite, il y a un engrenage, on a un problème de trésorerie et ça peut être fatal pour la société. Maintenant, quand on parle de bon moment, c'est surtout qu'il faut que l'entrepreneur soit prêt parce que ouvrir son actionnariat, son bébé, comme vous dites, à un fonds d'investissement ou une société d'investissement ou business angel, whatever, ça veut dire partager une vision commune. Contrairement aux banquiers, on ne signe pas un chèque et après on va s'asseoir. On prend ensemble des décisions sur la gouvernance, sur la gestion. Donc ça nécessite quand même d'avoir une même vision que le fonds d'investissement ou la personne que l'on accueille dans son actionnariat. Le moment, c'est toujours quelque chose que il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt à une structuration, aux règles de gouvernance que l'on demande aussi. Et surtout, avoir un projet bien défini. Quand on accueille un investisseur, c'est pour financer un projet de go-to-market ou développement sur 5 ans, sur 10 ans, mais avec une stratégie bien définie. Ça, pour moi, c'est le plus important.
C'est vrai, parce que si on n'a pas vraiment un business plan sérieux, tu n'auras pas un investisseur qui va s'engager avec toi, hein, ça c'est sûr.
Exactement. Et surtout sur les questions de management qui sont importantes pour les fonds d'investissement.
Absolument. Et d'ailleurs, Moumouni Konaté l'indiquait, c'est-à-dire que la gouvernance de l'entreprise change quand un investisseur arrive. Et peut-être parfois l'entrepreneur fait cette économie lorsque ce n'est pas un fonds qui a autant d'exigences, alors que la gouvernance de l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être une norme pour que l'entreprise elle-même sache également articuler de manière optimale sa gestion. Et je crois que Moumouni est passé par là, justement.
Moumouni Konaté, vous avez cédé combien en pourcentage de votre entreprise que vous avez créée, qui est une entreprise familiale ? Parce que c'est pas évident, ne serait-ce que psychiquement. Hein. Bien sûr, il y a la gouvernance, la structuration de la société, mais même aussi dans sa tête.
Oui, c'est sûr, bah, c'est pas évident. Effectivement, c'est une question de bébé. J'étais pas du tout d'accord à un moment, mais par la suite, j'ai compris que, vu mon âge, j'ai 65 ans et... Le fait que les enfants soient directeurs, ils ont chef de production et responsable administratif et marketing, sont en train de s'apprêter pour prendre la relève. Mais si je n'ai pas une bonne gouvernance, je ne peux pas pérenniser l'entreprise. Donc, il fallait ouvrir le capital à d'autres structures, surtout de synergie pour Kinar, telles que les capital risques. C'était vraiment ce qu'il fallait parce que ça va nous aider à faire la bonne gouvernance, ça va nous aider. Maintenant qu'on est devenu société anonyme, ça permet aussi d'appliquer la loi d'une certaine façon. Et moi, je suis tranquille quand il y a de bonnes méthodes de gestion parce que quand c'est la famille, on peut agir avec beaucoup de légèreté et à un certain moment, ça ne suit plus. Alors que l'entreprise grandit et il faut maintenant qu'elle s'implante définitivement et que, le pays et l'Afrique puissent compter sur cette entreprise.
Ça veut dire que très concrètement, Moumouni Konaté, vous avez ouvert une première fois votre capital à un premier fonds, IEP Partenaire, c'est ça ?
Oui.
Qui est sorti au bout de quelques années, c'est ça ?
Au bout de 5 ans. C'était le fonds Garrig géré par TechDev de France, oui.
Mmh. Et ensuite ?
Et ensuite, je l'ai géré tout seul et a grandi avec une certaine façon de faire. Et nous avons eu de bonnes méthodes de gestion avec le premier partenaire, mais par la suite, malheureusement, j'ai été un peu laxiste. Donc, j'ai reconnu que c'était mieux de pouvoir recommencer avec une structure plus aguerrie et en même temps mieux préparer mes enfants à la relève.
Mmh. Et donc, vous avez de nouveau ouvert le capital de votre entreprise ?
Je l'ai ouvert à 25%. Que Synergie a pris et ça m'a fait du bien. Parce
Synergie
que,
Burkina.
Oui, Synergie Burkina, ça m'a fait du bien parce qu'on a parlé de besoin de financement et il faut avoir le meilleur fonds quand on veut financer les besoins. Et le meilleur fonds, il faut savoir choisir entre le crédit bancaire ou les actionnaires et même les actionnaires qui sont associé à la gestion.
Et quand vous dites savoir choisir entre le crédit bancaire, les investisseurs, mais est-ce qu'on a d'ailleurs tant que ça de choix, Didier Akouté ? Parce qu'on dit beaucoup que sur le continent africain, c'est difficile de lever de l'argent.
En fait, ce n'est pas que c'est difficile. Il y a de la liquidité, simplement parfois l'aversion au risque de ceux qui financent extrêmement élevé. Et c'est ce qu'on dit souvent. D'ailleurs, il y a aussi quand l'entrepreneur regarde à droite, l'investisseur regarde à gauche. Et c'est aussi valable pour l'information financière.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Eh ben, ça veut dire lorsque le financier demande les comptes audités, l'entrepreneur produit des comptes qui ne sont pas audités, qui sont un peu approximatifs, donc qui ne donnent pas assez de visibilité à l'investisseur. Donc la qualité de l'information financière. Par exemple, c'est important, la gouvernance, etc. Donc, nous sommes en face de deux acteurs qui ont besoin l'un de l'autre, mais qui parfois ne parlent pas le même langage. Et c'est en ça peut-être que Aïssatou peut nous éclairer sur le choix du bon investisseur, du bon partenaire financier. Et j'ai vu des exemples de fonds d'investissement qui sont rentrés dans des entreprises, mais la culture n'était absolument pas compatible. Et au bout de 6 mois, ils sont sortis. Quoi. Et ça serait intéressant de voir le type d'entrepreneur que Aïssatou accompagne pour que culturellement, on soit aussi en phase. C'est extrêmement important.
Aïssatou, donnez-nous un exemple précis.
Oui, et en fait, j'écoute et je souris parce que c'est tellement vrai. On ne regarde pas la même chose. Disons que l'entrepreneur, il a la tête sur son business. Il est dans le day-to-day. Qui est le meilleur partenaire? Parce que l'investisseur, quand on dit que le fonds d'investissement ou l'investissement en capital, c'est un effet de levier, c'est le fait que ce n'est pas juste un chèque, ce n'est pas juste l'argent comme le donne la banque. Au-delà des questions de taux de bancaire qui sont très élevés ou bien qu'il faut que j'aille chercher plutôt des fonds en capital investissement parce que je peux travailler sur de long terme, je peux financer mon activité sans toucher à ma trésorerie, donc sans impacter la viabilité de mon entreprise. Le fonds d'investissement, si on choisit le bon partenaire, c'est-à-dire celui qui, au-delà de l'argent, est capable aussi de t'apporter cet accompagnement que tu as besoin selon ton secteur d'activité, peut apporter un plus, un grand plus.
Mais concrètement, donnez-nous un exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, on entendait un jeune patron tout à l'heure qui fabrique des couveuses dans le domaine avicole et pour les poules. Est-ce qu'il faut trouver un fonds d'investissement qui a une vraie connaissance du secteur agricole, de l'élevage, par exemple?
Ça, ce sont les fonds sectoriels. Ils peuvent avoir cette connaissance, mais même le fonds général, il faut lui apporter quelque chose parce que lui, il va regarder la rentabilité globale de son activité. Alors que le fonds va aller lui demander de faire, par exemple, une comptabilité analytique pour voir sur chaque étape de son processus où est-ce qu'il gagne de l'argent, où est-ce qu'il perd de l'argent. Ça, c'est une analyse beaucoup plus fine de son business model que le fonds d'investissement est capable de lui apporter. Sur les questions de marge, il y a des produits, quand on est en Afrique, c'est des produits mass market. Donc, il faut faire du volume, atteindre un certain volume pour pouvoir gagner de l'argent. Les entrepreneurs n'ont pas toujours cette culture financière. Sur la question des produits de niche, on pose souvent la question de le taux de pénétration du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce secteur d'activité, même si ça gagne énormément d'argent, est-ce qu'il y a la rentabilité qu'il faut sur tout le processus, qu'est-ce qu'il importe, qu'est-ce qui est fait au niveau local pour pouvoir atteindre une certaine rentabilité dans le long terme? Ça, c'est la valeur ajoutée qu'on peut lui apporter quand on investit dans des entreprises. Ce n'est pas juste le montant financier qu'il peut gagner ou bien sur le secteur d'activité, il n'y a personne, donc il faut y aller. Donc ça, c'est les questions sur lesquelles les fonds d'investissement peuvent être pertinents et accompagner l'entreprise. Sur la notion aussi du marché, de la réglementation, pour pouvoir voir sur quels produits je peux me développer sur 5 ans, sur 10 ans, est-ce que aussi ce ne sont pas des activités à court terme qui vont gagner de l'argent pendant 3 ans, 4 ans, mais qu'ensuite cette activité n'est pas viable sur le très long terme? Ça, c'est des questions sur lesquelles les fonds d'investissement sont capables de pouvoir accompagner l'entreprise à trouver des solutions, à mettre aussi en place une direction management stratégique qui leur permet, sur ces postes, de ne pas perdre de l'argent et de ne pas perdre du temps aussi dans certains secteurs d'activité. Ça, c'est très important.
Vous parliez du temps, justement. Moumouni Konaté, est-ce qu'il n'y a pas parfois un problème de timing pour arriver à maturité parce que l'entrepreneur a besoin d'un peu de temps? Alors certes, il a plus de temps que s'il devait rembourser auprès d'une banque, mais est-ce que les investisseurs ne sont pas parfois trop pressés de sortir avec des gains?
Bon, enfin, ils ont raison. S'ils sont assez pressés pour avoir le gain, parce qu'ils vendent l'argent, il faut bien que ça leur profite. Mais néanmoins, l'entreprise, le choix de capital risque, c'est le meilleur choix, hein, parce que c'est les fonds qui sont disponibles pour cela et ils vont étudier votre business plan. Vous l'étudiez ensemble et tant que vous ne regardez pas dans la même direction, vous ne pourrez pas travailler ensemble. Et ça, ils ont des arguments. Vous aussi, vous avez vos arguments et en fin de compte, je pense que dès que vous concluez l'affaire, vous êtes engagés tous les deux à réaliser ce que vous avez, ce pourquoi vous êtes engagés.
Vous étiez, Moumouni Konaté, avec votre entreprise, vous êtes sur des produits de masse, hein, des produits populaires, des produits d'hygiène.
Oui, c'est ça. Il faut en vendre beaucoup. Et c'est pourquoi justement nous avons acheté un nouvel équipement qui nous permet de faire plus d'une tonne et demie par heure de savon. Et ça nous permet en tout cas de produire à l'échelle industrielle.
C'est ça, et pour pas vendre trop cher, bien sûr.
Exactement, exactement. Mmh. Parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas trop doté en revenus.
Didier, à côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté pour des patrons de PME de trouver des fonds de taille intermédiaire? Est-ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle un problème avec des tickets d'investissement sur des sommes trop élevées par rapport aux besoins des patrons de PME qui ont besoin d'aller pas à pas?
C'est clairement une contrainte du marché. C'est-à-dire que les fonds qui disent ont fait de la PME, généralement vont vouloir entrer avec 3 millions de dollars, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars. Or, les petites entreprises ont des besoins beaucoup moins important que ça. Et c'est vrai, c'est la structure même des fonds qui fait ça. C'est-à-dire que quand une PME a besoin de 300 000 ou 500 000 dollars ou 50 000 dollars, bah, un fonds d'investissement, en fait, n'arrive pas à faire ce genre d'accompagnement parce que la structure de ses coûts ne le permet difficilement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver des fonds ou en tout cas des financements alternatifs qui fonctionnent comme un fonds, c'est-à-dire qui sont là sur la durée avec des taux faibles, qui font de l'accompagnement, mais qui ne sont pas des gros tickets comme ceux-là. Et effectivement, quand on regarde la cartographie, quand on fait la cartographie du marché, en fait, il y a vraiment très peu de fonds qui font de la PME, en réalité.
Aïssatou Leblanc,
c'est... Par rapport à la réalité du marché africain.
C'est ce que vous faites, vous?
Oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est aussi la raison pour laquelle on est venu s'installer en Afrique, parce que ces fonds qui veulent faire du PME en Afrique, ils ne peuvent pas faire des tickets petits, étant donné que le coût d'accompagnement coûte très cher, surtout quand on est installé à l'étranger. C'est tout à l'heure ce que je disais. Ce que les fonds, ils ont de plus, c'est vraiment cette partie accompagnement, qu'on peut accompagner l'entreprise, être au plus près pour travailler ensemble sur son business, sur sa stratégie. Ça, ça en coût. Ça ne permet pas aux fonds de faire des petits tickets. Nous, on fait des petits tickets, on investit dans un lycée, on investit dans les entreprises S2I, on met 50 millions, 80 millions, 150 millions dans les entreprises, parce que réellement, c'est de ça qu'ils ont besoin aujourd'hui pour passer une première étape de go-to-market ou bien de développement. Et demain, ils auront besoin d'autre chose, on remettra un autre montant pour une autre étape. Parce qu'il est très important d'investir selon ce que l'entreprise a besoin sur un business model qui est validé pour lui permettre aussi d'assurer une certaine pérennité et de ne pas surinvestir. Il y a un gros problème, c'est que, surtout pour les entreprises industrielles en Afrique, nos marchés sont encore petits. Même si demain on sera à des milliards, aujourd'hui nos régions sont très petites et c'est très difficile de faire du commerce intra-région, de vendre sur plusieurs villes. Donc ça veut dire que quand on installe des unités industrielles, il faut que ça soit des petites unités pour ce qu'on appelle les questions de taux d'utilisation des machines, ce que les fonds vont regarder, investir dans une grosse machine alors qu'on n'est pas capable d'écouler toute cette production. On va perdre beaucoup d'argent, en coût énergétique, l'entreprise va droit au mur. Donc ça, c'est problématique. Maintenant, pour faire des petits investissements, avoir des petites unités qui sont adaptées à la taille du marché, il faut avoir des fonds d'investissement qui sont capables de faire ces petits montants-là et surtout d'apporter l'accompagnement qui va avec, ce qui n'est pas toujours rentable pour le fonds qui est présent, mais aujourd'hui, c'est le besoin qu'on a en Afrique. Ouais, et ça, c'est très important.
Ce qu'on comprend en vous écoutant, Aïssatou Leblanc, c'est que la route est longue pour les patrons de PME, mais également pour des fonds d'investissement qui investissent dans les PME africaines. Des deux côtés, c'est difficile, finalement.
Des deux côtés, il y a un risque. Il y a des fonds qui ont disparu parce qu'ils ont... fait des mauvais investissements et donc c'est ça aussi c'est le risque du fonds d'investissement.
Est-ce qu'il y a un moment...
On n'est pas des prêteurs en dette. Quand l'entreprise marche dans le long terme, on gagne de l'argent, mais si l'entreprise ne marche pas, ce n'est pas comme la banque, on ne prend pas de garantie. Ça, c'est très important. Et on ne cherche pas toujours la rentabilité tout de suite. Je vous donne un exemple. J'ai investi dans un lycée, ça fait 3 ans qu'on est dedans.
On s'est bien
sur le plan au Sénégal. Ça s'appelle le lycée Bills. On y est depuis la phase construction du site, lycée, collège, internat, mais on sait que pendant les 5-6 premières années, on ne gagnera pas d'argent et le lycée n'en gagnera pas. Mais c'est un choix et les fonds sont prêts à prendre ce genre de risque tant que le modèle est sustainable dans le long terme et que dans le long terme, un moment, le modèle sera viable et pérenne. Oui. Donc, on n'investit pas toujours pour gagner tout de suite. On a quand même cette patience-là, même s'il faut qu'on reste beaucoup plus longtemps, qu'on soit patient beaucoup plus longtemps.
L'éducation privée, en tout cas, a un bel avenir sur le continent africain et inspire et intéresse de plus en plus d'investisseurs. Hein, Didier Akouété.
C'est un gros secteur. Éducation, santé, d'ailleurs, dans l'éducation, on voit de plus en plus de fonds d'investissement, de gros fonds d'investissement arriver. Parce qu'effectivement, il faut éduquer, nourrir, soigner le continent.
Alors, il y a aussi un moment quand ça se passe mal, on l'a évoqué. Comment on sort ces investisseurs si ça ne va plus, si on ne s'entend plus, puisque vous en avez beaucoup parlé, il faut que ça matche entre le fonds d'investissement et puis sa propre gouvernance, Didier Akouété, ou Aïssatou Leblanc. Est-ce que vous vous êtes déjà fait sortir par une PME qui dit non, mais je ne veux plus que vous soyez dans le capital de mon entreprise.
Ou Moumouni, peut-être
ou
aussi.
Ou Moumouni Konaté, peut-être.
Quand il a eu envie de sortir le fonds, comment ça s'est passé?
Bon, mais
en gros, c'est le divorce, quoi. Comment on divorce?
J'ai beaucoup apprécié ce que les deux ont dit. Franchement, il faut savoir choisir, aller par étapes. Parce que si on n'y va pas par étapes, ça ne peut pas marcher. C'est pas parce qu'il y a de l'argent et puis un entrepreneur va se mettre tout de suite à prendre beaucoup d'argent, mais il ne saura même pas gérer son entreprise avec et puis il va couler.
Moi, je dirais que on ne m'a pas encore fait sortir, mais moi, je suis sortie d'une entreprise alors que j'étais censée y rester beaucoup plus longtemps, mais les relations se sont dégradées d'expérience personnelle avec M&A Ventures, qui est mon fonds d'investissement. Simplement parce qu'à un moment, avec l'entrepreneur, on ne partageait pas la même vision, on ne partageait pas du tout la même manière de faire. À ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on essaye de trouver une solution commune, ce qu'on fait au début, mais après, il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités, où il faut chercher comment sortir. Ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles les entrepreneurs souvent sont réticents aussi à ouvrir leur actionnariat, parce qu'il leur manque aussi une culture sur les questions juridiques, sur les questions de gouvernance, comment on se partage les décisions, sur la question de la valorisation aussi, qui est très importante, aussi bien quand il y a un problème, mais aussi quand quel montant j'accepte de prendre, à quel niveau j'accepte d'être dilué.
Merci à tous les trois, Momouni Konaté pour la savonnerie parfumerie du Houé. Merci à vous, Aïssata Leblon, cofondatrice et dirigeante de M&A Capital Group, société d'investissement dans les PME africaines.
Merci, bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, à bientôt, Aïssatou.
À bientôt.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Didier Akouété, c'est le moment de résumer tout ce qu'on vient de se dire sur ce court débat sur ouvrir son capital, pourquoi, comment, quand, les points à retenir pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les jeunes entrepreneurs.
Alors, ouvrir son capital, en fait, c'est un besoin qui provient à un moment donné de la nécessité de renforcer ses ressources pour financer sa croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les entreprises, notamment les PME, les TPE, sont souvent sous-capitalisées et ont très peu de ressources pour investir sur la durée. Il faut savoir qu'à peine 20% de ces PME ont accès au financement, notamment au financement bancaire. Et la contrainte du financement bancaire, c'est que c'est un financement qui est sur une durée assez courte, avec un taux assez élevé, donc qui ne vous permet pas d'investir en équipement, etc., etc., pour, en tout cas, faire croître votre business. Et c'est là où, généralement dit, aller chercher un investisseur, ouvrir son capital pour céder des parts. Et en l'occurrence, ce dont on parle souvent, c'est le fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend une part de votre capital et injecte de l'argent. Et injecte de l'argent sur la durée.
Second point.
Et donc, il vient en accompagnement, puisqu'il reste 5 à 7 ans. Il vous donne de l'expertise, il vous donne de la trésorerie, de la liquidité et vous conseille. Donc, il ne fait pas qu'amener de l'argent, mais il apporte aussi du conseil et de l'accompagnement. Et enfin, si le fonds gagne, c'est que vous gagnez aussi, puisque le fonds, quand il sort, il faut qu'il ait multiplié ce qu'il a mis par 1, 2, 3, 4 ou un certain nombre de points. Donc, ça veut dire que quand le fonds sort, c'est que votre entreprise a grandi, à gagner de l'argent, c'est renforcé et du coup, vous retrouvez une sorte de stabilité financière qui vous aura permis pendant 3, 4, 5 ans de faire grandir votre business. Alors, bien choisir son fonds, c'est extrêmement important parce que le fonds arrive avec une stratégie et une culture. Si vous n'avez pas la même culture, la même vision et vous ne regardez pas la même direction, généralement, vous allez échouer parce que vous n'allez pas vous entendre. Et puis, pour l'entrepreneur, c'est très important. Quand vous faites venir un fonds, un investisseur, vous acceptez de perdre une partie de votre indépendance parce que celui qui met l'argent a le droit de dire ce qu'il aimerait bien que vous en fassiez pour être sûr qu'il puisse récupérer sa mise. Donc, il faut accepter d'être dans un schéma win-win et
gagnant-gagnant.
D'écouter un petit peu ce que votre partenaire vous dit puisqu'il est là sur la durée.
Merci beaucoup Didier Akouété. Tous ces points sur l'ouverture de son capital sont à retrouver dans le podcast Entreprendre en Afrique, les conseils du coach Didier Akouété sur notre page 7 milliards de voisins sur le site rfi.fr. Merci beaucoup, à très bientôt Didier Akouété.
Merci Emmanuel.
Merci à Momouni Konaté.
Merci
à Aïssatou Leblon. Dans quelques instants, le journal, ce sera juste après Emma, merci pour cette chanson si soul.
Jolie Emma, fais-moi taille, je suis pris en toi, maman. Comme un millier d'étoiles, tu m'illumines, maman, je suis fou de toi. Et ma voix, et ma zanga, miéwa, eh, miéwa, eh, ma famille, eh, miéwa, quitte à coucher, ma, eh, coucher, ma, eh, ma, c'est toi et moi, eh, c'est toi et moi. Emma, qui es-tu? J'ai déjà parcouru ce monde, mais jamais je n'ai trouvé des comme toi. Emma, qui es-tu? Emma, qui es-tu? Dis-moi d'où te vient cette beauté-là. Emma, zanga, miyewa, eh, vabiyewa, eh, Emma, vabiyewa, eh, vabiyewa, eh, quitte à coucher, Emma, eh, coucher, Emma, eh. C'est toi et moi. Cette manée mao, ça tout ça ne me tamoule rien d'abord bébé. Je veux ton cœur que toi seul et moi. Je te veux, je te veux.
C'est fini.